juste dire quelques mots pour vous d'abord vous remercier et d'être là et pour évidemment dire tout le plaisir que j'ai d'organiser cette journée avec Christine. Effectivement, on se connaît depuis très longtemps. On a été, j'étais à l'époque juste à peine docteur quand on ferraillait ensemble dans une arène où il était question du débat sur la continuité ou non du colonialisme et sur la pertinence du post-colonialisme, etc. Et je me souviens des débats très houleux. Et à ce moment-là, donc en 2004-2005, moi j'étais philosophe, il y a une spécificité disciplinaire et c'est aussi pour ça que cette journée pour moi elle est très importante, c'est aussi sur la dimension interdisciplinaire que pour une fois historien, géographe, anthropologue et philosophe, mais aussi spécialiste d'études africaines-américaines et de Black Studies sont rassemblés ici. Et à l'occasion en fait, de tout ce cheminement maintenant qui m'anime depuis presque 20 ans, je m'aperçois que cette journée aussi, c'est une autodétermination de mon propre travail comme une philosophie caribéenne. Et c'est probablement dans cette position que je prends place ici et que le dialogue, pour moi, est très important. D'autant plus que Christine Chevallon l'a dit à l'instant, la façon dont elle a travaillé dans sa propre... dans l'ensemble de sa pensée, en fait, en dialogue justement avec les thèses de Burton, la notion de pouvoir, la notion de résistance, la notion de diaspora, en fait, a toujours été pour moi une chose vraiment éclairante. Et en philosophie, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et encore aujourd'hui, je rappelle que la philosophie, en philosophie, c'est toute cette pensée, toute cette épistémée, justement, elle est non seulement ignorée, mais elle est complètement minorée. Non seulement une forme de non-reconnaissance, mais sans parler de reconnaissance, c'est aussi une forme de maintien en respect de toutes ces problématiques pour ne pas faire vaciller en fait, ce qu'on appelle la philosophie, c'est-à-dire le cœur de la discipline. Donc on est toujours comme ça aux marges. Et je dois rappeler que si dans les années 2000, même si ma thèse de philosophie était en histoire de la médecine et histoire de la philosophie, c'était à l'époque assez risqué de ma part. Mais même l'année dernière, j'ai organisé une journée d'études pour la commémoration de mai 67 à Paris 8. Et c'était un seul événement scientifique sur mai 67 qui a eu lieu dans une université, justement en France métropolitaine. Et que là encore, en fait, très peu de résonance et de réflexion philosophique sur ce qu'est la violence, qu'est-ce qu'un État qui massacre. Qu'est-ce que la contemporanéité des antagonismes voilà, et sur l'articulation des rapports de pouvoir, visiblement, ce n'est pas encore entendu. Donc, c'est pour ça que je voulais remercier à la fois, évidemment, Christine et le groupe de recherche, et puis de cette collaboration que j'espère fructueuse. Merci. Et je vais du coup enchaîner.
Tu enchaînes.
Directement. Voilà. Alors, c'est depuis un peu aussi cette spécificité de philosophe que je vais interroger... à la fois cette idée de violence et de contre-violence, précisément parce que pour moi, je vais essayer de déplier un peu ma réflexion plutôt sur un retour, justement, sur ma démarche méthodologique et sur mon positionnement épistémologique pour traiter de cette question de la violence, qui est une question donc, qui anime, voilà, maintenant, que je traverse depuis plusieurs années, à partir de l'archive de l'esclavage, avec une spécificité qui est celle de l'épistémologie historique et de la philosophie, de l'histoire de la médecine et de la philosophie politique et sociale. Donc ce retour réflexif, en fait, c'est une façon de déployer un peu ma démarche méthodologique, enfin celle qui est la mienne, mais aussi les enjeux épistémologiques qui me semblent les plus saillants sur la question de la violence. Et aussi, je le dis un peu tout de suite pour déflorer le sujet, je ne suis pas tout à fait convaincue de la pertinence du concept de contre-violence, précisément. Et voilà, je vais essayer de le déployer et d'y substituer plutôt la notion d'autodéfense. Donc, si mon travail depuis des années a consisté à faire la généalogie des dispositifs de pouvoir propres à ce que l'on pourrait appeler... évidemment, à partir de Foucault, mais aussi d'autres réflexions, la gouvernementalité coloniale ou la gouvernementalité impériale, j'ai été particulièrement attentive à respecter deux précautions fondamentales. La première, encore une fois, d'inspiration foucauldienne, consiste à ne jamais étudier ces dispositifs en les isolant des rapports antagoniques dans lesquels ils se matérialisent, à ne jamais les appréhender en dehors de l'historicité des rapports de pouvoir, c'est-à-dire de la myriade de résistances que ces dispositifs tentent de mater, d'abattre, d'effacer, et inversement, en tant que ces résistances font face à ces dispositifs, les minent de l'intérieur, les enrayent, les mettent en échec, les déterminent à muter, les renversent. Donc longtemps, dans l'historiographie esclavagiste, mais aussi dans des écrits de référence, et je pense précisément à Peau noire, masque blanc, ou le jugement expéditif de Fanon sur la non-résistance des esclaves et de leur, enfin, et donc des esclaves aux Antilles et de l'effet sur leurs descendants et descendantes, ces esclaves qui se sont laissés affranchis sans se battre, en comparaison par exemple aux descendants d'esclaves et aux esclaves aux États-Unis. Donc longtemps dans l'historiographie, les résistances à l'esclavage ont été littéralement oubliées, niées on pourrait dire, ou en tout cas minorées. Et plusieurs raisons peuvent être avancées à cela. D'abord et avant tout, il s'agit d'un enjeu, encore une fois, épistémologique, c'est celui de l'ontologie de la trace. Qu'est-ce qui constitue une trace de résistance? Et dans le cas précis qui nous intéresse, et sur quoi je voudrais insister, c'est précisément que les résistances les plus communes des populations serviles ont été effacées, et que ces résistances-là, justement, ont également été faites pour ne pas pouvoir être retranscrites comme résistance. C'est-à-dire, la première chose que je veux dire, c'est s'effacer soi-même consister en une pratique de résistance. Je prends un exemple immédiat, c'est que je tire surtout du corpus médical. Dans la plupart des traités d'anthropologie médicale ou les journaux de médecins ou les traités de médecine esclavagiste, à un moment donné où ce genre émerge, les médecins notent bien que les populations serviles ont un savoir évidemment médical. Il est interdit par le code noir, les esclaves n'ont pas le droit de faire quelques gestes de soins que ce soit, sous peine de punition. Mais en fait, les médecins essayent de soutirer également le savoir aux esclaves, le savoir médical, pour connaître, par exemple, les plantes qui protégeraient de telles maladies, de tels parasites, la façon dont on peut soigner une blessure, etc. Et que face à cette prédation, en fait, épistémologique des médecins, c'est un savoir de prédateur, on a une résistance qui joue par le silence et l'effacement. Se cacher, ne pas dire, ne pas montrer, ne pas justement être chassé, y compris dans une dimension gnoséologique, c'est-à-dire la chasse au savoir. Donc ça, c'est la première chose. La question de la trace, c'est d'abord, évidemment, celle de l'archive des dominants, qui pose un problème, mais c'est aussi la question de ne pas laisser de trace comme acte de résistance, et j'y reviendrai avec le marronnage, par exemple. Donc cette question-là, c'est l'idée que effacer la trace pour ne pas être attrapé, tué, approprié. Tout cela renvoie aussi à l'histoire de l'esclavage qui est constituée dans cette archive des dominants. Et nécessairement, c'est une archive de l'horreur, c'est une ode à la modernité impériale blanche, c'est une histoire des exactions en tout genre. Et quand il s'agit d'entamer un travail généalogique sur la résistance, il s'agit bien d'excaver les traces des résistances à partir de ce matériau. Mais il faut donc préciser une chose. Cette archive considérable, monumentale, n'est pas monolithique. Elle est hétéroclite, composée de récits de voyage, de traités sur l'esclavage, de traités juridiques, économiques, anthropologiques, philosophiques, de traités médicaux, de journaux de capitaines de vaisseaux, de journaux de planteurs, de journaux de médecins, de journaux d'économes, de récits d'habitants, de traités philanthropiques, de traités abolitionnistes, de traités militaires, de documents administratifs, d'actes d'état civil, de règlements royaux. C'est-à-dire dans toute cette archive, en fait, y compris à l'intérieur, les traces n'ont pas le même statut. Ce qui est noté ou ce qui ne l'est pas, justement sur la résistance, les révoltes, les silences, les échappées des populations serviles, ne le sera pas noté de la même façon, ne sera pas compté de la même façon, dans une certaine mesure, ou enregistré de la même façon. Il faut donc restituer cette cartographie complexe et essayer justement de travailler ces traces dont nous n'avons pas fini, au fond, de faire l'inventaire. Donc on peut lire différentes versions sur des mêmes événements, et au sein même d'un même document, on peut lire de plusieurs façons un même texte. Il y a un certain nombre de textes qui ont été commentés, recommentés, recommentés, et qui pour autant n'ont pas vu en fait qu'ils étaient aussi le récit d'actes ou de pratiques de résistance. Donc si on n'y voit qu'un assujettissement systématique des populations serviles, réduites en tout point de vue et en toute part à l'impuissance, on ne voit pas la pluralité des tactiques de résistance. Mais si on lit autrement, on peut voir, par exemple, en s'attachant à la question des affects qui traversent ces textes, donc les textes des colons, ou en tout cas du pouvoir colonial. Si on s'attache par exemple à la question d'aller saisir les affects, on voit la peur constitutive des tenants de la plantocratie qui respire à chaque ligne. La peur derrière l'autoglorification, l'angoisse, la crainte des révoltes, la crainte des maladies, la crainte de l'empoisonnement, la crainte de la faillite économique, la crainte de la mort, l'efficience des tensions poussées à leur paroxysme qui constituent le maintien d'un système où l'élite blanche s'enrichit dans et par la traite négrière, mais en même temps se retrouve rapidement en situation de minorité numérique face à une population servile en passe de devenir, à proprement parler, ingouvernable. Et donc c'est cette tension aussi qui me semble être, là encore, justement, la manière de constituer une trace de la résistance, c'est-à-dire d'aller chercher, justement, du côté de l'affect de l'habitant. C'est précisément donc l'effectivité de la précarité, même d'un rapport de pouvoir des plus asymétriques, qu'il faut constamment tenir pour acquis. On peut lire dans les récits des vainqueurs l'écho, la rumeur, les voix fantomales des vaincus. On peut y saisir les gestes, les mouvements, les échappées, les actes de courage, de désespoir, de refus, le silence. On peut y lire la vie, les fuites, les révoltes permanentes, la multitude des tactiques et stratégies de résistance, de préparation à l'affrontement, à l'agression, au combat, au soulèvement. Et finalement, l'ensemble des stratégies d'autodéfense qui transpirent également dans cette archive. Tout cela est une question au fond de point de vue. C'est pour ça que, à mon sens, c'est d'abord une posture épistémologique. Question de point de vue, de positionnement. Pour voir, pour entendre, enfin, pour pouvoir lire ça, il faut voir, entendre, donner sens à ce matériau. Il faut donc se situer à un point de vue où on peut lire cela. Et au fond, il s'agit d'adopter une démarche historiographique qui consiste à entamer la recherche avec un certain concept de rapport de pouvoir, mais aussi avec une certaine posture, une posture de sujet de connaissance. Ici, en fait, c'est toute la question que je laisse ouverte aussi, dans quelle mesure aller faire cette histoire des antagonismes et donc de saisir la résistance suppose que soi-même, en tant que sujet de connaissance, on soit dans une forme d'explicitation de là où on parle, à qui l'on parle, ou plus exactement, qui on entend. Alors, je ne veux pas non plus faire idéaliser, en fait, cette question du rapport de pouvoir. En fait, il n'y a pas seulement un rapport de pouvoir, évidemment, entre population servile et société plantocratique. Il y a des rapports de pouvoir à l'intérieur, évidemment, de la société plantocratique. Les petits colons, les engagés, les marins, etc., par rapport aux grands habitants. Il y a aussi des rapports de pouvoir qui sont orchestrés comme une technique de domination à l'intérieur, évidemment, de la société servile. On sait très bien que l'une des modalités les plus efficaces de gestion de la population servile a été d'organiser des divisions et de les officialiser, évidemment, à travers des formes d'anthropologie raciste, mais aussi à travers une division du travail, division servile du travail ou division martiale du travail dans la colonie. Division, par exemple, entre nègre bossal et nègre créole, nègre de jardin, nègre de maison, nègre marron et chasseur de marron, etc., etc. Donc la division orchestrée à l'intérieur même fait que des actes de résistance peuvent viser également des actes de résistance, par exemple, à l'intérieur des populations serviles, au sens où on crée en fait des asymétries, etc. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième précaution, c'est qu'est-ce que résister veut dire ? Et au fond, c'est un terme et un concept qui est particulièrement difficile à manier parce que, là encore, si on prend dans une perspective foucaldienne, on sait très bien que l'impureté de la résistance, elle est constitutive, en fait, justement, de son appréhension philosophique. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas seulement le grand soir révolutionnaire, mais il y a aussi les petits gestes, les gestes de collaboration, les gestes de négociation, la fuite, le silence, la passivité, le non-faire, le faire, le faire qui ne se voit pas, le faire qui n'est pas considéré comme un faire, etc. Et cet ensemble-là constitue, en fait, voilà, cette constellation de résistance. Qu'est-ce qu'on appelle résister ? Alors, par rapport à cette question des résistances esclaves, il m'est apparu que un des concepts peut-être plus heuristiques était d'aller voir dans ces résistances que moi j'ai dégagées sur la notion d'autodéfense. Et d'autodéfense dans un sens bien particulier, c'est qu'en parlant d'autodéfense, justement, je me dégageais de l'histoire juridico-politique de la légitime défense. Est-ce qu'il est légitime, par exemple, pour les esclaves de se soulever ? Et ça pose la question de la légitimité d'une contre-violence, par exemple, émancipatrice. J'ai évacué cette question parce qu'en ce qui concerne les populations serviles et compte tenu justement de cette gouvernementalité impériale, il n'y a rien au fond à défendre. Il n'y a pas de soi à défendre, c'est-à-dire que le soi, le sujet, ne préexiste pas à sa défense. Lorsque vous avez un système qui est celui justement d'une mise à mort, d'une mort à la fois effective, et d'une destruction absolue de la subjectivité, une destruction absolue même de l'être, en fait, on pourrait considérer, la question de défendre quelque chose ou quelqu'un, finalement, ne se pose plus. L'idée juste, c'est ce qui m'a paru important c'est dans le concept d'autodéfense, c'est dans le mouvement, dans l'élan, dans cette force qui, à un moment donné, se matérialise, se réalise, le soi n'advient que dans ce mouvement. Il ne préexiste pas à cette défense. C'est-à-dire que s'il y a une forme de subjectivation, c'est précisément seulement dans le geste qui explose et qui même d'ailleurs, en risquant la mort, constitue, matérialise une sorte de subjectivation. Donc en fait, ce terme d'autodéfense renvoie à tous les actes, ou plutôt à tous les gestes qui, sans même parler d'atteinte à l'ordre établi, par exemple de contestation, de lutte, de soulèvement, etc., mais tous ces gestes souvent qualifiés d'infrapolitiques. Mais là encore, ça pose des questions à la philosophie politique, c'est-à-dire quel est le domaine, par exemple, du politique et qu'est-ce qu'on qualifie de politique, relevant d'une résistance vitale, d'une défense nécessaire, et je vais revenir sur le concept de nécessité, ou pour le dire encore autrement, consistant à se sauver. Donc en fait, je comprends l'ensemble des gestes, des pratiques que l'on peut mettre, subsumer sous cette expression « se sauver ». Au sein d'un système dont la puissance mortifère est poussée à son paroxysme. Il faudrait ainsi plutôt parler justement de tactiques, de pratiques d'autodéfense, serviles, esclaves. Et j'emploie le terme de tactique en suivant la distinction de De Certeau sur laquelle je vais revenir. En outre, si cet ensemble de tactiques donc d'autodéfense m'intéresse, c'est aussi parce que cela me permet d'évacuer les questions classiques relatives à la violence et qui, selon moi, constituent une aporie. En effet, en travaillant sur l'autodéfense, sur, encore une fois, cette idée d'une nécessité, la question de la vie, et y compris le fait de se sauver, de sauver sa vie en se tuant, en se sacrifiant, en se suicidant, permet de comprendre que la violence ne peut pas être pensée au sein du couple légitimité-illégitimité. La légitimité du recours à la violence, qui qualifierait par exemple certains actes de résistance esclave comme de la contre-violence, de la violence négative ou de la violence excessive ou de la violence meurtrière par exemple. La légitimité du recours à la violence du côté des esclaves est une question piège ou plus exactement presque indécente. Indécente car le système esclavagiste et plus largement la gouvernementalité coloniale se caractérise comme un gouvernement par et dans la mort. L'autodéfense donc est un concept qui permet de comprendre du suicide à la violence insurrectionnelle la plus meurtrière, qui permet de comprendre ce qui relève avant tout de la nécessité vitale ou d'une nécessité de la vie elle-même face à un système de mort. En l'absence de toute considération morale, au sens où ici toute notion de subjectivité est annihilée, anéantie, au sens où l'esclave est le non-être, l'autodéfense devient une forme de lutte pour la vie, ou plus exactement même une forme de vie, contre la déréalisation, l'anéantissement, le massacre du réel, de l'être même. Et en fait, je relisais avant la journée un texte magnifique de Georges Canguilhem, en hommage à Cavaillès, à Jean Cavaillès, philosophe, logicien, spécialiste de la philosophie des mathématiques, et qui a été un grand résistant avant d'être arrêté en 1944 par la police, enfin par les Allemands, et torturé et abattu. Et dans un texte qu'écrit Canguilhem en 1974 pour inaugurer à Paris 1 une salle qui s'appelle la salle Jean Cavaillès, Canguilhem rappelle qu'il est particulièrement intéressant que ce soit précisément un philosophe mathématicien, un philosophe qui travaille justement absolument en dehors de toute notion de subjectivité, qui travaille sur la question du formalisme, de la nécessité, qui soit l'un des philosophes qui, dans l'ensemble de la philosophie, ait été un résistant qui lui-même pensait son engagement dans la résistance, non pas comme un choix moral, non pas comme un engagement politique, mais comme une pure nécessité, c'est-à-dire comme un pur geste nécessaire sur lequel il n'y a ni choix, ni possibilité de trancher, ni même jugement de quelque valeur que ce soit. Et d'ailleurs, Canguilhem appelait Cavaillès philosophe terroriste. Philosophe terroriste parce que précisément philosophe de la nécessité et de l'engagement, mais de l'engagement complètement corporel, martial, à un moment donné, dans une situation où il n'y a pas d'autre choix, il n'y a même pas d'autre choix à faire au jeu que celui de prendre les armes. Donc c'est en ce sens-là que, pour moi, l'autodéfense m'intéresse, c'est que c'est presque une politique du geste et qui évacue, en fait, la question du pourquoi, du comment, de l'engagement, du juste, de l'injuste, etc. Précisément dans un contexte, encore une fois, où le dispositif est un dispositif qui, de toute façon, a d'emblée abattu toute notion de subjectivité. Alors, il y a peut-être un paradoxe, c'est comment je vais aller chercher dans une archive ce qui est au fond le plus imperceptible, une archive, comment aller chercher ces gestes d'autodéfense, ces affects, ces mouvements, donc c'est ce qui est le plus imperceptible, le plus discret, le plus enfoui, dans l'archive même des dominants. Comment je vais aller saisir les gestes, la tension des muscles, les refus indicibles, les entraves, les tactiques prosaïques, dans ce foisonnement, en fait, d'un récit des vainqueurs. Comment travailler cette histoire de l'autodéfense servile ? Donc, ces deux précautions méthodologiques effectuées, si j'ai un tout petit peu plus de temps.
Oui, tu as... on est de toute façon en retard. C'est terrible parce que je me dis je sais pas faire le truc du temps et j'ai pas noté, j'ai regardé à quelle heure t'as commencé, je me rappelle plus.
Bon alors si vous me laissez encore un peu de temps, en fait je vais vous proposer, je vais aller rechercher dans des archives que j'ai déjà travaillées, d'autres sur lesquelles je retravaille et dans lesquelles je retrouve encore de nouveaux éléments. Donc principalement ce qui m'intéresse c'est les archives de l'anthropologie philosophique, de la médecine et la littérature maritime, médecine navale, journaux, etc.
Tu avais mon temps.
Ouais. Donc je vais essayer de faire une sorte de topographie pour aller essayer de voir dans ces archives de l'horreur comment on peut saisir en fait cette question de l'autodéfense comme une résistance et comment ça nous permet d'évacuer tout jugement. En fait, sur la question de la violence, mais d'essayer de restaurer la nécessité. Donc, je vais prendre trois étapes. La traversée, l'habitation et les mornes. Trois lieux. Trois lieux qui sont des lieux paradigmatiques des résistances esclaves. La traversée, puisqu'on se situe d'abord sur le bateau négrier, c'est une figure particulièrement intéressante qui a été notamment beaucoup travaillée par Paul Gilroy, et au sens où c'est la traversée transatlantique et le bateau, en fait, et cet espace-temps bien singulier sur lequel on va justement pouvoir saisir les résistances. Donc le bateau négrier, c'est, comme dit Gilroy, un système en mouvement micropolitique, microculturel et vivant. Donc c'est dans l'Atlantique noir. Le bateau négrier est à la fois l'un des éléments fondamentaux et la mise en abîme du système politique que constitue l'Atlantique noir pour Gilroy. Et il est ce par quoi La mémoire historique, la mémoire sociale, la mémoire culturelle de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques sont inextricablement liées. Et ça, c'est intéressant parce que ça signifie aussi que là, on ne parle pas de décentrement. En fait, on a juste la constitution. Enfin, ce qui me pose un problème sur le décentrement, par exemple, ou la décolonisation. Là, on a juste. On change d'espace-temps. On change de coordonnées, en fait. Donc, le bateau négrier, il est défini comme un dispositif hautement emblématique par lequel, évidemment, les nations européennes sont entrées dans un système impérial, mais aussi les classes laborieuses dans un cycle de coalitions rebelles contestataires, de révolution pour la liberté et l'égalité. Donc sur le bateau négrier, en fait, on a les premières archives des résistances esclaves. Pendant longtemps, on a eu de récits du bateau négrier que comme l'horreur la mise sous fer des esclaves, l'entassement, etc. Mais on a aussi en fait un certain nombre, dès l'embarcation, de résistances. Et je prends par exemple un premier exemple de cette résistance qui est issu de Paul Isère, voyage en Guinée dans les îles Caraïbes en Amérique, qui est un texte qui est publié en 1758. Et voilà ce qu'il écrit. Comme dans un bâtiment si rempli, donc effectivement, les esclaves sont entassés dans les cales, comme dans un bâtiment si rempli, on entend un murmure continuel. On entend un murmure continuel. Mon attention fut réveillée tout à coup par un profond silence. La plus grande partie de notre monde prenait dans ce moment son repas. La plus grande partie de notre monde prenait en ce moment un repas. Mon premier mouvement fut d'aller à l'avant du navire pour voir si chacun était à son poste, dans le cas où les nègres méditeraient quelques insurrections. Comme j'étais à moitié en chemin, je vois la porte du fort s'ouvrir. C'était le premier pilote qui venait à moi. Dans le même instant, j'entends retentir un cri de tous les nègres, du ton le plus affreux. Il ressemblait à celui que j'avais entendu lorsqu'ils livrent bataille. En poussant ce cri, tous les hommes assis auparavant se levèrent. Donc les mutineries, en fait, là, l'archive encore une fois, l'archive du dominant témoigne à la fois, ils vont être matés, ils vont être fusillés, mais en fait, ça passe, vous voyez, par la question du murmure, du silence à un moment donné qui se fait, et là, en fait, il se matérialise, en fait, une résistance qui comprend à la fois le fait de s'organiser, de se libérer des fers, ils sont attachés en général, non seulement deux par deux, mais aussi sur des chaînes où ils sont plusieurs. Donc ça signifie en fait toutes des tactiques en fait que l'on peut retravailler, mais à partir en fait seulement de ce qui n'est pas dit ou de ce qui est dit dans des mots qui ne sont pas immédiatement le récit politique d'un soulèvement. Donc les mutineries en fait, elles sont quasiment constantes sur les bateaux. Et lorsque en général elles se passent, elles sont soit elles réussissent. Alors si elles réussissent près des côtes africaines, c'est encore faisable de se sauver. Si elles réussissent en pleine mer, en général, c'est la mort assurée, parce que en général le bateau dérive, il y a une question de vivre, etc. Si elles arrivent vers l'arrivée sur les Antilles, là il y a une possibilité, mais en général ils sont les rebelles sont repris, vendus malgré tout, etc. Donc il y a toute une temporalité en fait de la résistance. Et cette temporalité, elle inclut l'idée que se soulever, c'est aussi mourir, mais choisir la mort comme autodéfense. Je vais vous lire juste un autre récit. Celui-ci, il est un peu différent parce qu'il est tiré d'un ouvrage. Il est tiré d'un ouvrage de Benjamin Frossard, qui est un abolitionniste très connu, protestant, qui a écrit en 1789 un texte qui s'appelle « La cause des esclaves nègres et des habitants de la côte de Guinée ». Et dans ce texte, en fait, Frossard va décrire sur le bateau la façon dont les esclaves, évidemment, sont retenus. L'idée, par exemple, que dans les cales, les conditions d'existence sont dignes de l'horreur, c'est-à-dire que les esclaves sont attachés les uns aux autres, ils sont entassés. Surtout pour des raisons économiques, par exemple, on rajoute plus d'esclaves ou on fait attendre les bateaux négriers dans des escales pendant des mois pour avoir la cargaison qui arrive en fait au seuil au bon seuil du nombre d'esclaves à vendre. Et Frossard rappelle que dans les cales, en fait, il y a un problème de ventilation. C'est pour ça qu'en Angleterre et en France, vous allez avoir une législation, notamment en Angleterre, pour l'obligation pour les négriers de mettre des ventilateurs dans les cales. Parce qu'en fait, la plupart des esclaves meurent d'asphyxie, ou alors ils meurent pour des raisons, encore une fois, de maladie, notamment parce qu'il y a des problèmes sur les souillures et les esclaves finissent par nager dans le sang et la fange et des excréments, etc. Ils meurent comme ça. Ce qui m'intéresse dans ce texte de Frossard, qui encore une fois dénonce les exactions, c'est qu'il rapporte évidemment que c'est pas bien, que c'est inhumain, qu'il faudrait des conditions meilleures, etc. D'accord, ça c'est le champ lexical philanthropique, abolitionniste, etc. Mais il dit, en fait, ça rend fou. Les esclaves deviennent fous. Ces hommes, ces femmes deviennent fous dans les cales. Et il rapporte les cris, justement, là encore. Et une des façons de résister, c'est de résister à la folie. Résister à la mort, à la maladie, à la faim, résister à la folie. Et là encore, il y a des formes d'autodéfense. Résister à la folie, Frossard décrit une scène où, sur un bateau négrier français, où en général, on monte les esclaves au bout de 2 ou 3 jours, une fois que le bateau a commencé la traversée, on fait sortir les esclaves sur le pont pour qu'ils prennent l'air, sur le tillac. Et Frossard décrit qu'on peut les faire monter sur le pont, encore faut-il qu'ils soient encore vivants, ou que ceux qui sont encore vivants puissent monter, parce que comme ils sont attachés d'une chaîne de 50, de 10, par exemple 10 hommes, s'il y a juste un cadavre sur cette chaîne, l'esclave ne peut pas monter sur le tillac pour aller prendre l'air. Donc, et il parle du supplice de Mésence, qui est le supplice de Mésence dans l'Ancien Testament, il me semble, et qui est l'idée que vous avez ce roi dont la torture, en fait, consiste à attacher un condamné à un cadavre et de le laisser comme ça mourir en même temps que la putréfaction de ce cadavre. Donc ce supplice de Mésence. Et là encore, une des résistances, du coup, va être de faire en sorte que la première résistance, vous vous détachiez, en fait. Aussi, il n'y a pas de solidarité. Par exemple, la question de la solidarité, elle est très problématique. La solidarité esclave. C'est une notion à interroger. Autre scène que décrit Frossard, à partir d'ailleurs d'un texte qui est très connu sur la littérature esclavagiste anglaise, qui est un récit de capitaine négrier, qui est le récit de John Churchill, et qui explique que, par exemple, une des tactiques de résistance la plus commune, a été soit de se jeter à la mer lorsque les esclaves étaient montés sur le tillac, soit de refuser de s'alimenter et de boire. Donc, soit en grève de la faim, soit complètement en acte de suicide. Et que la plupart des techniques sur le bateau consistaient à approcher des chardons de feu sur les lèvres pour obliger les esclaves à se nourrir, voire de leur faire manger en fait des chardons en exemple pour que les autres se nourrissent. Il n'y a aucune volonté de faire vivre les esclaves, c'est juste de faire en sorte que cette marchandise continue à être rentable, même s'il y a une assurance en fait sur chaque tête d'esclave. Les négriers en général ont une assurance en cas de perte. Dernier récit. En fait, cette fois, c'est tiré d'un texte d'Antoine Benezet, qui est aussi un abolitionniste, qui est issu d'une famille protestante également réfugiée en Angleterre. Et il rapporte le cas d'une révolte esclave survenue sur un vaisseau négrier, pareil, fin 18e siècle. Il dit « La cargaison était composée d'hommes capturés suite à une guerre entre nations africaines, guerre savamment orchestrée par la négrier. » Donc, en fait, une façon de prendre des esclaves était d'orchestrer des guerres fratricides, qui est un procédé très habituel, pour acheter les esclaves, en fait, pour acheter les vaincus. Donc ces hommes, ainsi réduits en l'esclavage, achetés par des Européens, étaient des guerriers. Sur le navire où ils sont enchaînés, ils organisent une rébellion et refusent de se nourrir. Donc le premier acte, c'est qu'ils refusent de se nourrir. Le capitaine prit la décision d'assassiner celui qu'il identifia comme le meneur, de découper son corps en plusieurs morceaux et d'obliger les autres esclaves à les manger. Donc là encore, l'idée de mater la résistance, par exemple, c'est évidemment les exactions, etc. Mais la résistance, ça va être aussi de rendre les autres fous. Et résister ici, c'est juste de survivre à cet acte après. Enfin, c'est tout. Là encore, si je parle d'autodéfense, ça, ce qui me paraît beaucoup plus pertinent que la notion de résistance, c'est comment se sauver de ça. Se sauver de ça, par exemple. Alors, sur l'habitation, je vais aller vite. Donc, au bout de 3 mois en moyenne passés en mer, au bout de 3 mois passés en mer, mais en fait, entre l'embarcation, le fait d'être acheté, embarqué sur le navire et l'arrivée, par exemple, aux Antilles, vous pouvez avoir un an et demi, le temps que ça puisse... d'abord, on s'arrête sur les comptoirs, sur le continent africain, ensuite à Gorée, enfin, sur la côte, ensuite on s'en va, ensuite, etc. Mais la traversée en tant que telle, au mieux, c'est 3 mois, 2-3 mois, et l'arrivée aux îles à sucre. Donc une fois débarqués pour être vendus, les esclaves deviennent la propriété d'un planteur et ils sont assignés, etc., à une tâche. Sur l'habitation, la liste des faits de résistance esclave est infinie. Le sabotage, l'incendie, le vol, le meurtre, la fuite, le marronnage, l'empoisonnement, l'infanticide, la révolte, l'insubordination, le suicide. Et quand je vais travailler, par exemple, la notion de vol. Donc, pour penser ces pratiques, c'est là où, par exemple, la notion de Desarteau, la distinction entre tactique et stratégie, me semble intéressante. Parce que, en fait, la question l'invention du quotidien, dans les arts de Fèvre, Desarteau fait la distinction entre les stratégies qui postulent un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre et d'être la base d'où gérer les relations avec une extériorité de cible ou de menace. Donc ça, c'est la stratégie, mais qui suppose un lieu propre, où en fait, ce lieu propre, c'est un lieu où se retrancher, au sens où si vous avez un lieu à vous, vous capitalisez du temps. C'est ça la réflexion fondamentale de Desarteau, vous capitalisez du temps. Or, pour fomenter une révolte, vous avez besoin de la préparer, vous avez besoin de temps. C'est pour ça qu'une stratégie, en fait, nécessite du temps. Et pour avoir du temps, il faut un lieu à soi. Un lieu à soi produit du temps pour se préparer. Si vous êtes dans un lieu qui est finalement l'espace de l'ennemi, vous n'avez jamais de temps pour vous, jamais, finalement, le temps de vous arrêter, vous êtes constamment sur le qui-vive, il n'y a pas de stratégie possible, vous êtes dans la tactique, c'est-à-dire dans l'immédiateté et dans l'intelligence du kairos. C'est l'occasion, à un moment donné, qui va faire que vous pourrez faire ceci ou cela, mais vous ne pouvez pas vous préparer à l'avance. Donc cette idée de stratégie, au fond, on va voir comment elle est fondamentale pour qualifier à proprement parler le marronnage. Le grand marronnage, c'est-à-dire vraiment la fuite dans les mornes et la constitution de communautés marronnes, et notamment dans des lieux symboliques et géographiquement situés, qui sont les mornes. Si on parle sur l'habitation, on ne peut parler que de tactique à proprement parler, parce que l'idée, c'est que, c'est l'expression de Desarteau, vous braconnez. Vous braconnez. On vole du gibier, on vole de la nourriture, on vole, par exemple, du temps à l'atelier, on vole du temps sur la coupe de la canne, si on peut, du temps juste pour reprendre son souffle, en fait. Hein. On vole, et finalement, on se vole soi-même, puisque on ne s'appartient pas. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour vous sauver, pour résister, c'est d'abord de vous voler un peu de vous-même, voler un peu de soi, voler à mon propriétaire un peu de moi-même. Donc cette idée, par exemple, c'est si on considère que l'habitation donc, est un territoire ennemi, le propre corps de l'esclave est pour lui un territoire de braconnage et de sabotage. Donc l'autodéfense, c'est l'idée aussi que je peux me saboter, que je vais me braconner moi-même. Le corps propre est lui-même grévé par la loi du maître, les coups du régisseur. Il devient le lieu d'un affrontement les plus violents. Donc le corps est le lieu de l'autodéfense. L'esclave, absolument dépossédé de lui-même, il vole un peu de force pour survivre. Par exemple, se voler un peu de force pour aller le dimanche cultiver son jardin. C'est une des grandes, dans la mansuétude du Code noir, c'est l'idée qu'on peut... le dimanche après-midi, faire son jardin. Pour la culture vivrière des propres esclaves qui, comme ça, n'étaient pas nourris par le maître, qui n'étaient pas obligés de les nourrir, qui leur laissaient un lopin de terre. Donc l'idée, c'est que pour survivre, il faut garder, en tout cas, il faut se voler un petit peu. Mais on peut aussi se saboter, se blesser. Les récits, par exemple, des esclaves qui se mutilent, sont pléthores, se mutiler,
pour ne pas, pour être retiré en fait de la plantation. Le récit des mutilations peut aussi aller jusqu'à la question de l'infanticide, évidemment. Sur l'infanticide, on va avoir ça va beaucoup intéresser les médecins esclavagistes. La mortalité infantile sur les habitations va devenir une question cruciale, notamment à partir de 1750, où il va avoir un problème d'acheminement, notamment pour problème sur la traite négrière avec la guerre de 7 ans, etc., qui va poser des problèmes. Donc on va se poser la question de la mortalité infantile sur les plantations, et on va considérer que les mères, en fait, elles sont épuisées, maltraitées, affamées, et donc les planteurs sont convaincus, par exemple, qu'elles tuent sciemment leurs enfants. Il y a dans un traité, c'est ce qu'on appelle notamment cette idée que... un traité très, très connu qui est de La Fosse, avis aux habitants des colonies, particulièrement à ceux de l'île de Saint-Domingue, qui est un traité de médecine, et qui dit « Je tiens d'un habitant qu'on avait découvert après avoir perdu plusieurs jeunes sujets sur une habitation, dans l'examen exact qui fut fait d'une nouvelle victime, une épingle introduite dans le crâne à travers la partie encore membraneuse de ses os qui tient à leur lieu de suture. » Donc, on soupçonne les femmes esclaves de tuer leurs enfants avec une épingle en fait plantée dans le crâne. Mais ça encore, c'est vu comme une sorte de pathologisation en fait des femmes esclaves, et mais aussi un acte de résistance des femmes elles-mêmes qui, lorsqu'elles ne perdent pas dans des fausses couches, évidemment dues à des conditions sanitaires, souvent préfèrent tuer leurs enfants. Les infanticides, et à plus forte raison les suicides, sont les ultimes tactiques d'autodéfense désespérée ou négative dans une situation de toute façon de mort absolue. Non pas seulement de mort sociale, mais de mort absolue. Le système plantocratique est un système de mort absolue, de mort totale. Donc l'idée, en fait, sur les suicides, moi, ce qui m'a intéressée tout particulièrement, c'est un cas de suicide sur lesquels j'avais travaillé en 2006 pour un article pour Tumulte, justement sur les résistances esclaves. Et c'est un cas, c'est un événement très connu de 1733. Ça se passe sur l'île de Saint-Jean, qui est une colonie danoise. Et les esclaves de l'île de Saint-Jean, donc colonie danoise, ont monté une énorme révolte en novembre 1733. Ils ont brûlé, détruit des habitations, des sucreries, et ils ont massacré une quarantaine d'habitants blancs. Donc ça va défrayer la chronique. C'est-à-dire sur toute la Caraïbe, Français, Anglais, Espagnols vont être particulièrement choqués par la révolte de Saint-Jean. Donc malgré, et voilà la façon dont on va restituer, comment on va aller punir ces insurgés. Donc malgré les chasses continuelles qui leur furent faites, tant par le reste des habitants que par ceux de Saint-Thomas qui étaient allés à leur secours, malgré la rigueur des supplices qui fut exercée contre plusieurs de ces révoltés qui avaient été pris, leur nombre s'accrut et ils paraissaient plus résolus que jamais. Donc voyant que les esclaves de Saint-Thomas allaient se soulever à leur tour, le gouverneur de ces deux îles demanda de l'aide au lieutenant général des îles françaises du vent de l'Amérique, 200 hommes français, suisses, membres de la milice de la Martinique, dont une quarantaine de nègres ou mulâtres libres, bien armés, débarquèrent sur l'île le 24 avril 1733. Partis battre les bois, les mornes et les ravines, ils trouvèrent des cases à nègres avec des repas encore chauds, des campements composés d'ajoupas abandonnés, qu'ils détruisirent, des cadavres desséchés et des têtes de mort. Le lendemain, ils trouvèrent un jeune noir, apeuré et blessé, à qui ils coupèrent et emportèrent la tête. Donc ça, c'est les chasseurs. Le 6 mai, ils trouvèrent de nouveau un petit nègre qui leur rassura que les révoltés étaient si fort épouvantés des chasses continuelles des Français qu'ils avaient tous fait le serment de se tuer et qu'ils les croyaient tous morts. Les jours suivants, ils trouvèrent encore des pendus, des cadavres alignés à terre et des ossements et se plaignirent d'une odeur pestilentielle. Le 15 mai, ne pouvant livrer bataille, le commandement offrit de la bière pour les troupes et autorisa une chasse au gibier. Plusieurs jours passèrent jusqu'à ce que 40 nègres marrons et 2 négresses marronnes se livrent et donnent des informations sur les campements des révoltés. Le lendemain, sur ces dires, un détachement partit. Il trouva un nègre et une négresse qu'un mulâtre qu'un mulâtre libre français tua d'un seul coup de fusil. On emporta les têtes. Le lendemain, ils ne trouvèrent que des cadavres, toujours alignés. Quelques jours plus tard, des nègres danois découvrirent dans les bois 25 nègres qui s'étaient tués selon la même disposition, alignés les uns à côté des autres, chacun tenant un fusil sur la tempe de son voisin. Dénoncés comme étant une connivence avec les révoltés, deux des prisonniers sont brûlés vifs à petit feu, un est scié et le dernier empalé. Les deux négresses eurent la tête et les poignets coupés après avoir été traînées et tenaillées par la ville. On dîna ce jour-là chez le gouverneur. Voilà, c'est ça cette archive-là, elle présente ça, mais ici, donc c'est ce qui m'intéresse, c'est la question du suicide collectif comme acte de résistance, mais c'est aussi l'alignement, la disposition des cadavres, la notion aussi de sépulture, par exemple. La notion de sépulture et de la trace mémorielle de ces cadavres, de ces morts, de ces résistants, l'alignement, en fait, l'idée qu'on se tue, etc. Enfin, c'est l'ensemble de cet acte qui renvoie également à l'idée de se sauver au-delà de la mort dans une disposition où il y a aussi une forme de mystique, en fait, le développement d'une mystique de la résistance qui est fondamentale. On pourra en parler sur le marronnage, etc. Je vais juste finir sur justement le marronnage. Puisque le marronnage, vous savez qu'il y a plusieurs formes de marronnage. Il y a le marronnage de journée, le marronnage à la lisière de l'habitation, le marronnage où on part quelques heures, on revient, qui est très sévèrement puni, évidemment. Il y a le marronnage aussi quand en ville, qui est particulier. Mais ce qui m'intéresse, c'est le grand marronnage, marronnage vers les mornes, et qui va constituer des sociétés donc où là peuvent se développer des stratégies d'autodéfense à proprement parler, où les villages, les nations de marrons ont vraiment constitué des villages fortifiés où ils se sont défendus, ils ont défendu leurs conditions de vie ou une vie possible, une forme de vie. Et donc, sur la question, donc, je ne parle pas du marronnage grève, du marronnage de journée, etc., mais plutôt sur le grand marronnage. On a beaucoup d'archives, mais l'une l'archive la plus connue, en fait, c'est celle notamment en Jamaïque, avec Naniton, qui est une grande figure de HNF Maron. Donc certaines bandes, en fait, de marrons ont pu tenir près de 40 ans en société ultra-organisée, en territoire autarcique, et développer une stratégie d'autodéfense, et mener des guerres, mener des exactions, des meurtres, etc. Et là, ce n'est pas une contre-violence, hein, c'est juste de l'autodéfense. Donc l'idée, en fait, c'est de dire que les territoires marrons sont de véritables communautés, non pas utopiques, mais de communautés constituées, au sens que le marronnage n'était possible que parce que le pouvoir plantocratique se limitait, en fait, à une infime partie du territoire côtier et laissait dans la non-réalité, dans la non-cartographie, enfin le non-cartographié, cet espace autochtone, en fait, qui va constituer le morne et le lieu de stratégie de résistance. Donc la bande de marrons André, alors, ce qui est très connu, c'est la Jamaïque, Naniton, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, mais pour des raisons personnelles, c'est la Guyane, grande terre de marronnage. Et là, sur les archives guyanaises, coloniale de la Guyane, on a évidemment énormément de choses parce que sur le territoire de la Guyane est très propice en fait au marronnage et puis évidemment la population servile est beaucoup, la population de colons est beaucoup moins importante. Il y a une grosse difficulté de gérer ce territoire ingérable qu'est la Guyane, etc. Donc là c'est une archive. Je finirai là-dessus, qui est donc sur le marron André. Donc c'est juste avant 1848, enfin au moment de quelques années avant 48, un des grands, une grande nation marronne en Guyane a été près de Cayenne en fait et qui a été menée par un esclave marron qui s'appelle André. Et d'après la déposition de Louis, marron de 15 ans, fait prisonnier par une expédition lancée en 48 à l'assaut du camp de André, dirigé par André. Il comportait environ 70 hommes, femmes et enfants. armés. Et quand il arrive de nouveaux marrons, on leur fait mettre des vivres en commun jusqu'à ce qu'ils aient fait un abatis et que leur plantage soit bon à manger. Donc en fait, on organise, les sociétés de marrons organisent aussi une vie autarcique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se sauver soi-même d'abord avant de faire collectif en fait. Que lorsqu'il s'agit de faire des abatis, chacun y travaille et lorsqu'ils sont brûlés, on en marque à chacun une part suivant leur famille pour la planter et l'entretenir. Donc chacun a un petit territoire, etc. Que les cochons de bois qu'ils tuent très fréquemment se partagent entre tous ainsi que d'autres gros gibiers, même le poisson, et qu'ils enivrent quand la pêche est considérable. Qu'il y a longtemps que Mathieu, Madelon, sa sœur, Lisette, Rémi et sa fille, et Madelon, le roux, sollicitent pour venir se rendre, mais qu'André n'a pas voulu et les a fait rester de force et par menace aux 10 quartiers. Donc il y a aussi un droit d'entrée dans les sociétés marronnes de s'assurer en fait de la loyauté en fait des personnes qu'on fait entrer pour des questions en fait de techniques de domination et de gestion policière des résistances, c'est-à-dire de la peur d'être infiltré, la peur d'être dénoncé, etc., etc. Donc voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire sur le marronnage, mais l'idée en fait, c'est que les marrons possèdent des territoires propres, ils sont en mesure de monter des batailles, de mener des batailles et surtout de se préparer à la bataille. Donc c'est l'idée en fait d'une assaise de l'autodéfense, d'un entraînement à l'autodéfense, d'une martialité en fait qui est bien plus développée que sur les tactiques, où le camp de retranchement permet d'avoir une vision globalisante du rapport de force, de sortir du corps à corps immédiat et de s'entraîner pour mener de front en fait des révoltes ou carrément des guerres, se préparer à la guerre. Les bandes marronnes lancent ainsi des raids sur les habitations pour y piller les ressources, pour y libérer des esclaves, parfois pour ramener des esclaves, il faut aussi dire qu'il y a des formes de collaboration, pour y enlever des négresses prises comme des butins de guerre, mais il y a aussi évidemment des chefs marronnes, pour assurer la très faible reproduction de leur communauté. De toute évidence, et compte tenu en fait du sexe ratio dans les populations esclaves, les enlèvements de femmes par les marrons ont été fréquents. Il y avait des femmes parties en marronnage, mais de toute façon, elles étaient en minorité. Donc, sur cette idée du marronnage, en fait, c'est au fond ce que je voudrais saisir, c'est ce qui permet de prendre sens, enfin, ce qui fait sens pour moi, c'est d'aller travailler cette pluralité d'autodéfense, bien plus que, qui me paraît plus intéressante que la résistance en tant que telle que j'ai du mal à manipuler, et surtout que ça me permet de mettre à plat complètement la violence. La violence ici, c'est vraiment l'idée très fanonienne d'une praxis absolue. Ce n'est que par et dans la violence qu'au fond, en fait, il est possible de se sauver, et y compris d'une violence faite à soi-même, à commencer par se faire violence à soi, donc quand un soi n'existe plus. Et donc c'est à partir de là, au fond, que moi, ce qui m'intéresse maintenant et de discuter, mais pour des travaux à venir, c'est d'essayer d'aller chercher du côté en fait de ce que j'ai appelé la phénoménologie de la proie, c'est-à-dire ce statut en fait d'être chassé, d'être traqué. Quels sont justement l'autodéfense, le soin pris à se défendre, les tactiques faites ou les tactiques développées pour se sauver, et d'essayer vraiment de travailler à cette généalogie-là à partir du cas, enfin, pas seulement du cas, mais de l'idéal typique de la situation paradigmatique de la société plantocratique guyano-antillaise. Voilà, merci beaucoup.
Eh bien, merci Elsa. Je voudrais, normalement, on ne discute pas, on fait mais je voudrais juste soumettre aux discutants de tout à l'heure deux petites idées qui me viennent et qui me tracassent en t'écoutant. Donc, si vous voulez rebondir dessus avec vos perspectives, donc l'idée de la résistance à définir, effectivement, parce que si on part de ta notion d'autodéfense, qui est très, très, pour moi, riche, alors, est-ce qu'elle inclut ou pas les violences? Mais tu sembles dire oui, et bien évidemment.
De façon intrinsèque.
Mais, alors, dans ce cas, de façon intrinsèque, et dans ce cas... pourquoi le contre-violence, voilà, autodéfense contre, voilà. Qu'est-ce que ces petits mots nous disent, l'auto et contre.
Justement, voilà. Moi, je récuse le contre.
Voilà. Alors, voilà. Donc je trouve qu'il faudrait en reparler. Et puis surtout, jusqu'où ça va, L'autodéfense, est-ce que ça va jusqu'au consentement? Parce que se défendre soi-même et se sauver sa peau, c'est une négociation qui passe par des tactiques où on ne juge pas la légitimité de la violence. Mais est-ce que dans ce consentement qui a fait des choses aussi, qui est une courroie de transmission de la violence du colon, le consentement, et tu as très bien décrit les hiérarchies dans la plantation, donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est sauver sa peau? Et tu sais que sauver sa peau, tu dois le savoir, hein, c'est sauver sa peau, c'est au sens littéral du terme. On va coucher avec un plus clair de peau pour sauver sa peau. Donc, est-ce que le consentement, les discutants, jusqu'où ça peut être une pratique d'autodéfense?
Et justement, c'est précisément pour c'est une forme de démystification de la résistance. Il y a de la résistance dans le consentement, dans la négociation, dans le... Enfin voilà, mais c'est aussi pour ne pas avoir de mythologie de la résistance.